France Musique.
The next stop is 42nd Street.
Come here, Vinny.
Laurent Vallière, 42e rue.
Bonjour à tous. En décembre 2019, notre ami Christian Merlin, tous les dimanches matin à 9h sur France Musique, dressait dans le Figaro les éloges du nouveau directeur de l'Opéra National du Rhin. Je cite, Alain Peyrou coche beaucoup de cases. Connaissance encyclopédique de l'opéra, vision artistique éclairée, tout en étant un pragmatique, maîtrise des rouages d'un théâtre lyrique, carnet d'adresse international, sens de l'humain. Bonjour Alain Peyrou.
Bonjour Laurent Vallière.
Alors vous avez été 10 ans conseiller artistique au Festival d'Aix-en-Provence. Vous avez côtoyé les plus grands metteurs en scène, les plus grands artistes lyriques, chefs d'orchestre, Peter Sellars, Patrice Chéreau, Esa-Pekka Salonen. Mais vous avez été aussi chanteur, directeur de chant, metteur en scène, conférencier, animateur radio, auteur de plusieurs ouvrages, dont un formidable de densité intitulé « Comédie musicale ». Mode d'emploi. Et lorsque vous êtes arrivé à la tête de l'Opéra National du Rhin, une comédie musicale, faut-il y voir un signe, y était à l'affiche. Un violon sur le toit, en langue française, mise en scène par Barry Kosky. Votre connaissance de la comédie musicale est, je crois qu'on peut le dire, encyclopédique.
Pour une encyclopédie de poche, oui, ça va. De poche, je dirais.
Je crois pas. Et d'ailleurs, on va en avoir la preuve aujourd'hui, car vous avez accepté de programmer 42e rue.
To whisper, see how the leaves go streaming by, smell how the velvet rain is falling out where the fields are warm and dry. Now is the time to run inside and stay. Now is the time to find a
a tree we'll build, four walls and a floor we'll bind it over with leaves and duck inside to stay.
Then we'll let it rain, we'll not feel it. Then we'll let it rain, rain pell mell, and we'll not complain if it never stops at all.
Like for me to show you around the castle?
Oh, yes, please.
With leaves
and run inside to stay. Come run inside to stay. For soon it's gonna rain. I can see. Complain.
Happy ending.
If it never stops at
then
all.
Then we'll let it rain. I complain. We live and love within our walls.
Happily we'll live and love, no cares at all.
Happily we'll live
and love within our castle.
Une chanson d'amour pour ouvrir cette 42e rue programmée par le directeur de l'Opéra National du Rhin, Alain Pérou, Chiara Peacock, Sam Samuelson, extrait de The Fantastics, Soon It's Gonna Rain, avec le compositeur au piano Harvey Schmidt. C'est cette œuvre, The Fantastics, qui vous a fait découvrir la comédie musicale, Alain Pérou?
C'est une des œuvres qui m'a effectivement fait découvrir la comédie musicale. Je crois que j'avais entendu le tube de cette partition, qui n'est pas la chanson qu'on vient d'entendre, c'est Try to Remember, qu'on connaît bien en France aussi parce que ça a été utilisé par une célèbre marque de café pour ses campagnes de pub. Et donc, j'avais entendu Try to Remember dans un récital, un disque récital Broadway, donc du crossover d'un grand chanteur d'opéra, Placido Domingo. Je me suis dit, ah tiens, ça a l'air très beau. J'avais un peu creusé. Et du coup, c'est une des premières comédies musicales que j'ai été amené à connaître. Et je l'avais d'ailleurs vue dans sa fameuse production originale qui est restée plus de 50 ans à l'affiche dans le Off-Broadway, dans la salle qui aujourd'hui n'existe plus malheureusement, à Soho. Au milieu des années 90, j'avais vu la production qui, à l'époque, je crois qu'elle a été créée en 1960. Et donc là, c'était 35 ans plus tard. Évidemment, les interprètes avaient changé, mais il y avait toujours la belle simplicité, le théâtre de tréteaux, les confettis pour faire la pluie, etc. Puisque là, on nous dit, il va bientôt pleuvoir. Et je trouve que voilà, c'est magnifique de poésie, de minimalisme poétique. Et c'est une œuvre d'ailleurs inspirée d'une pièce française de Rostand. Voilà, ça a été effectivement une des premières comédies musicales que j'ai appris à connaître.
Alors, quand on lit votre biographie, on comprend bien que vos parents n'y sont pour rien dans votre amour pour la voix lyrique ou pour la musique. Qu'est-ce qui est venu en premier, l'amour de l'opéra, l'amour de la comédie musicale? Qu'est-ce qui...
Ah, c'était d'abord l'opéra, en fait. Mm-hmm. Quand j'avais une dizaine d'années, enfin, j'ai commencé à me rendre compte que j'aimais bien la musique classique. Alors d'abord des tubes, hein, les quatre saisons, des choses comme ça. Et puis par ailleurs, j'ai toujours été fasciné par le théâtre, par le jeu théâtral, par le lieu, par les théâtres eux-mêmes, la scène. Et au croisement entre les deux, évidemment, il y a l'opéra. Donc assez rapidement, j'ai découvert l'opéra, d'abord par la flûte enchantée, hein, un tube là encore. Et puis c'est devenu une passion dévorante qui ne m'a jamais quitté. Donc l'opéra, c'est vraiment au cœur de mon parcours.
Alors qu'est-ce que la comédie musicale apporte en plus à votre culture, à cette nourriture terrestre qu'est l'opéra?
Ben, en fait, je sais, c'est pas vraiment que ça apporte quelque chose en plus, c'est que ça fait partie, pour moi, du théâtre musical dans son ensemble. Puisque au fil du temps, je me suis aussi rendu compte que j'avais des goûts très éclectiques en termes musicaux. Donc j'aime autant la musique baroque que la musique d'aujourd'hui, les grands compositeurs du 18e et du 19e siècle, et puis les grands classiques du 20e, etc. Et que même, alors qu'au départ, j'étais un peu... quand j'étais adolescent, j'étais très monomaniaque sur la musique classique, j'ai pas mal élargi, et justement, c'est vers des musiques plus populaires. Et... Voilà, je sais pas, à un moment donné, j'ai trouvé qu'il y avait, j'ai appris à connaître certaines très belles chansons de comédie musicale. Je me suis intéressé à cet univers-là. Je me suis rendu compte qu'il était d'une richesse infinie. Donc, non seulement sur le plan de la composition, donc de la musique elle-même, et notamment d'une variété, je dirais, d'approches et de grandes profusions mélodiques notamment, mais que aussi sur le plan dramaturgique, sur le plan des histoires telles qu'elles sont racontées en musique, eh bien, le monde de la comédie musicale, parfois, est beaucoup plus inventif que le monde de l'opéra.
Alors, est-ce qu'on peut prendre comme exemple ce titre que vous avez choisi pour nous, If I Loved You, extrait de Carousel, la comédie musicale de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein. Qu'est-ce qu'elle a d'inventif, cette chanson ?
Ah bah, elle est très emblématique d'un style nouveau qu'ont créé Rodgers et Hammerstein dans les années 40, ce qu'on a appelé le Integrated Musical, c'est-à-dire que tous les ingrédients d'une comédie musicale sont intégrés pour raconter une histoire. Donc, c'est du théâtre en musique où, dans une scène comme celle-là, par exemple, on passe indifféremment du parler au chanter de manière très naturelle, en fonction des états d'âme des personnages, de leurs sentiments, de leurs affects. Et donc, il y a quelque chose de très théâtral. La musique est constamment présente, parfois simplement par des underscores, hein, donc une musique d'accompagnement. Et en plus de ça, tout cela est au service d'une histoire belle, assez complexe, avec des personnages montrés dans toute leur complexité, justement. Des personnages dont on peut pas dire qu'ils sont complètement blancs ou complètement noirs. Ils sont humains, c'est-à-dire qu'ils ont des contradictions, et notamment le personnage principal de Billy Bigelow.
Un coup de foudre entre Billy Bigelow, qui travaille sur un manège, et Julie Jordan, une habitante du village où se situe ce manège, et une sorte de déclaration d'amour. Si jamais je t'aimais, if I loved you.
Ain't you scared of me? I mean, after what that cop just said about me taking money from girls.
I ain't scared.
Is that your name, Julie, something?
Julie Jordan.
You're a queer one, Julie Jordan. Ain't you sorry that you didn't run away? You can still go if you wanna.
I reckon that I care to choose to stay. You couldn't take my money if I didn't have any, and I don't have a penny, that's true. And if I did have money, you couldn't take any, 'cause you'd ask and I'd give it to you.
You're a queer one, Julie Jordan. Have you ever had a fella you give money to?
No.
Ain't you ever had a fella at all?
No.
Well, you must have had a fella you went walking with.
Yes.
Where'd you walk?
Nowhere special I recall.
In the woods?
No.
On the beach?
No.
Did you love him?
No, I never loved no one, I told you that.
You know, you're a funny kid. Hey, you want to go to town dance, maybe?
No, I have to be careful.
Of what?
Of my character. You see, I'm never gonna marry. I'm never gonna marry. If I was gonna marry, I wouldn't have to be such a stickler. But I'm never gonna marry, and a girl who don't marry has got to be much more particular.
Hey, suppose I was to say that I would marry her, huh?
You.
Oh, that scares you, huh? Yeah, you are thinking what the cop said.
No, I ain't. I never paid no mind to what he said.
Oh, but you wouldn't marry somebody like me, would you?
Yes, I would. If I loved you, it wouldn't make no difference what you... Even if I died for
now, how do you know what you'd do if you loved me? How you'd feel or anything.
I don't know how I know. Just the same, I know how I... How would it be if I loved you? When I worked in the mill, weaving at the loom, I'd gaze absent-minded at the roof. And half the time the shuttle'd get tangled in the threads, and the warp would get mixed with the woof. If I loved you.
But you don't.
No, I don't. But somehow I can see just exactly how I'd be. If I loved you time and again, I would try to say all I'd want you to know. If I loved you, words wouldn't come in an easy way, round in circles I'd go.
But as vibrato start to shake, I feel my water break. I'd never even make it down. down the aisle. If you'd have been there, you'd have seen in that second mezzanine, first a head, then 2 feet from my $90 seat as I lifted up my gown to the doctor to
Pérou, le directeur de l'Opéra National du Rhin, programme aujourd'hui 42e rue sur France Musique. Et là, il faut que vous nous expliquiez qui est cette femme et quel est ce titre que vous avez choisi.
Alors, le titre, il est à rallonge. Et c'est une chanson qui a été écrite exprès pour la chanteuse que nous venons d'entendre, Kelly O'Hara, que vous connaissez, Laurent Vallière. C'est plus grandes stars
à Broadway.
À Broadway, aujourd'hui, chanteuse absolument sublime. Qui peut tout chanter, et on l'entend dans ce titre. Elle a même chanté des petits rôles au Metropolitan Opera, mais son métier premier, c'est vraiment la chanson, la comédie musicale, et c'est aussi une actrice absolument époustouflante. Et ce titre lui a été composé à l'époque où elle était enceinte, enfin d'après ce que j'ai lu, et comme elle a une formation classique de technique vocale, du coup ça met en valeur justement le fait que c'est une fille du Sud, elle le dit dans la chanson,
et c'est vrai, d'où
le style country, ouais. Donc c'est l'histoire d'une jeune chanteuse qui voudrait faire carrière à l'opéra, mais on lui dit non, mais les chanteuses de country, elles ont rien à faire à l'opéra. Et puis alors, elle se retrouve quand même un jour au Met, justement, parmi les spectateurs, elle est enceinte, et à ce moment-là, elle perd les os, et le bébé arrive, donc on assiste à un accouchement en direct dans la salle du Met, et ça devient une grande scène de bravoure d'opéra avec les vocalistes qu'on a entendus et des vocalistes, et comme si c'était la grande scène de la folie de Lucia di Lammermoor, mais sur les mots contraction par exemple, donc contraction pour ceux qui ont besoin d'une traduction. C'est assez rigolo. Et puis ça met en valeur justement la versatilité stylistique de cette chanteuse formidable, et le fait que en Amérique, les frontières ne sont pas poreuses entre le monde de l'opéra et le monde de la comédie musicale, par exemple.
42e rue, Laurent Vallière, France Musique.
Il y en a un qui a franchi le Rubicon, c'est Leonard Bernstein. Lui, carrément, il voulait pas créer un opéra lorsqu'il a créé West Side Story. Il l'a dit, il voulait créer un opéra américain. Alors c'est le prochain titre sur votre liste, Alain Perroux, j'allais dire, c'est plus traditionnel, mais alors ce qui est intéressant, c'est le titre que vous avez choisi. Pourquoi avoir choisi Cool de West Side Story ?
Ben, précisément parce que cela montre exactement ce que vous avez dit, que Bernstein, avec son bagage de musicien classique, de grand compositeur et de grand chef d'orchestre aussi, il compose cette œuvre d'ensemble. En fait, ce sont les Jets qui essaient de se calmer parce que la tension monte entre eux et les Sharks, la bande rivale. Et pour ce faire, il chante et danse ce numéro dans lequel il y a, à un moment donné, une fugue sur un thème avec 12 notes, donc un thème dodécaphonique en fait. Et Bernstein s'amusait en disant, c'est quand même fou, là je suis en train de faire chanter des jeunes comédiens, danseurs, interprètes de la comédie musicale, dont certains venaient de la banlieue vraiment de l'époque à New York, qui se rendent pas compte, mais ils sont en train de chanter de la musique dodécaphonique.
Est-ce que West Side Story aurait sa place, par exemple, à l'Opéra National du Rhin ?
Ah bah, je crois que n'importe quelle comédie musicale aurait sa place à l'Opéra National du Rhin.
Boy, boy, crazy boy, get cool, boy. Got a rocket in your pocket. Keep coolly cool, boy. Don't get hot, 'cause man, you got some high times ahead. Take it slow, and daddy, oh, you can live it up and die in bed. Boy, boy, crazy boy, stay loose, boy. Breeze it, buzz it, easy does it. Turn off the juice, boy. Go, man, go, but not like a yo-yo schoolboy. Action. Easy. Cool, baby John.
dying by inches every night. What a glamorous life, brought on by winches to recite. What a glamorous life. Ordinary mothers never get the flowers, and ordinary mothers never get the joys. Ordinary mothers couldn't cough for hours maintaining their pores. Sandwiches only, but she eats what she wants when she wants. Sometimes it's lonely, but she meets many handsome gallants. Ordinary mothers don't live out of cases, but ordinary mothers don't go different places, which ordinary mothers can't do. Be mothers, oh dear, minds away in a play, and she's realer than they. What if her brooch is only glass and her costumes unravel? What if her coach is second class? She at least gets to travel. And sometime this summer, meaning soon, she'll be traveling to me. Sometime this summer, maybe June, I have a new place you'll see. Ordinary daughters may think life is better with ordinary mothers near them when they choose, but ordinary daughters seldom get a letter enclosing reviews. Gay and resilient with applause, what a glamorous life. Speeches are brilliant if they're shores, what a glamorous life. Ordinary mothers needn't meet committees, but ordinary mothers don't get keys to cities. No, ordinary mothers merely see their children all year, which is lovely, I hear, but it does interfere. By dragons, snorting and grumbling and rumbling in wagons. She's in her kingdom, wearing disguises, living a life that is full of surprises. And sometime this summer, she'll come galloping over the green. Sometime this summer, to the rescue, my mother the queen. Ordinary mothers thrive on being private, and ordinary mothers somehow can survive it. Ordinary mothers never know they're just standing still with the kettles to fill while they're missing the thrill.
Audra McDonald, The Glamorous Life, extrait de A Little Night Music de Stephen Sondheim, le choix d'Alain Perroux, le directeur de l'Opéra National du Rhin, qui programme aujourd'hui 42e rue. Vous adorez les voix féminines, vous adorez les actrices, vous adorez les belles chanteuses d'opéra. C'est encore un exemple de personnalité que vous rêveriez de recevoir à l'Opéra National du Rhin, Audra McDonald.
Ah bah oui, je dois même avouer qu'on avait un projet avec elle à Aix-en-Provence, où je travaillais avant au Festival d'Aix, et puis malheureusement elle était partante, et puis elle a annulé 8 ou 10 mois avant parce qu'elle avait une proposition plus longue et intéressante à Broadway. Mais oui, Audra McDonald, tout comme Kelly O'Hara qu'on a entendu tout à l'heure, c'est parmi les plus belles voix de Broadway aujourd'hui. Elle a fait la Juilliard School, une grande école de musique. Et notamment où il y a beaucoup de chanteurs d'opéra qui passent. Elle a une formation donc classique, et elle a justement cette voix, ce timbre magnifique, et en même temps cette expressivité. C'est une bête de scène, et elle, voilà, elle passe. On ne sait plus si c'est de l'opéra ou de la comédie musicale, et peu importe. C'est de la musique, c'est du théâtre en musique, c'est de la chanson expressive, c'est inspiré. Enfin, c'est magnifique. Et là, elle chante en fait une chanson de Sondheim. Il y a beaucoup de Sondheim aujourd'hui parce que je suis un grand. Ah,
j'aurais
fan.
Pu faire une grande émission uniquement avec du Stephen Sondheim.
Bah, Sondheim is God, je vous le rappelle, Laurent.
Stephen Sondheim est Dieu.
Oui, bah, non, je rigole parce qu'il y a un groupe Facebook qui s'appelle comme ça, et je crois que beaucoup de gens pensent la même chose.
C'est ce que vous pensez.
Ah oui, 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 absolument. Et j'ai eu la chance de rencontrer Dieu, d'ailleurs, tout comme vous. J'ai pu l'interviewer un jour. Mais donc Sondheim, là, c'est une chanson. C'est une fille qui raconte la vie d'actrice de sa mère, qui est tout le temps en tournée, donc qu'elle ne voit jamais.
la vie glorieuse d'artiste. Qu'est-ce que vous appréciez chez Stephen Sondheim ?
Ben c'est que chez Sondheim, il y a une pensée globale, c'est-à-dire c'est un tout grand compositeur, mais c'est aussi un tout grand lyriciste. Donc,
parolier,
il joue avec les paroles, avec le texte, c'est d'une profondeur infinie et en même temps, il y a du jeu, c'est ludique, c'est plein d'esprit. Et c'est aussi quelqu'un qui construit très bien à la fois chaque chanson. Il dit lui-même que chaque chanson est comme un petit drame, une petite comédie musicale en soi. Et en même temps, sur la grande forme, avec ses librettistes, il crée des architectures complexes et chaque fois renouvelées, parce que c'est ce que j'aime chez Sondheim. Dans chaque comédie musicale, il se réinvente, il réinvente les règles du jeu. Donc, du point de vue dramaturgique, c'est passionnant.
Et par exemple, Sweeney Todd, c'était la première comédie musicale grand guignol, on peut dire ça, avec beaucoup de meurtres sur scène. Avant le film de Tim Burton, Alain Perrou, c'était... Eh bien, en 2008, vous avez décidé, parce que vous êtes aussi metteur en scène et vous êtes aussi auteur, on l'a dit en début d'émission, vous n'êtes pas seulement directeur de l'Opéra National du Rhin, et vous avez décidé de présenter, de produire, de mettre en scène Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street, en français, en Suisse. Pourquoi l'avoir produit et monté en langue française ? Qu'est-ce que ça change ?
Alors, en fait, oui, à Genève, je m'occupais d'une compagnie d'opéra de chambre, dans le off, si on veut, une compagnie indépendante. Et donc, j'avais présenté quelques opéras et j'avais envie de présenter du Sondheim. Et je me suis dit, Sweeney Todd, c'est l'un de ses grands chefs-d'œuvre. On peut le faire avec une distribution qui mélange les chanteurs d'opéra, des chanteurs de comédie musicale. Mais est-ce qu'on le présente avec des surtitres, comme je l'avais fait avec les opéras précédemment ? Non. Après mûre réflexion, je me suis dit qu'il valait mieux le présenter en français. Comme ça, les gens ne sont pas obligés de passer par les surtitres. Il y a beaucoup de textes dans Sweeney Todd et parfois ça va très vite, notamment avec le personnage de Mrs. Lovett, qui est une bavarde impénitente et qui parle très vite en cockney. Donc, je me suis dit, je vais le traduire. Il n'y avait pas de traduction française chantable qui existait à l'époque. Donc, je me suis mis en tête de le traduire. J'ai demandé les droits qu'on m'a accordés et ça m'a pris à peu près une année. Bon, pas à plein temps, mais à mes heures perdues, je traduisais chanson après chanson et puis après les dialogues. Donc, c'était un travail ardu, mais passionnant. Parce qu'une traduction chantable, ça veut dire qu'il faut que, évidemment, vous respectiez la musique et que vous caliez un texte français avec une prosodie très différente de l'anglais sur la musique. Donc, trouver les bons accents, etc. Faire qu'on évite d'accentuer les syllabes quand ça ne va pas, mais en retrouvant la dimension poétique et parfois très spirituelle, drôle, hilarante des répliques de Sondheim, de ses paroles. Donc voilà, c'était un travail ardu, encore une fois, mais vraiment, et je crois que ça a bien marché parce que les gens regardaient le spectacle. C'était juste au moment où sortait le film de Tim Burton, mais donc la plupart des gens dans la salle n'avaient jamais entendu parler de Sweeney Todd. Ils découvraient l'ouvrage et donc ils regardaient ça comme un film. Et encore une fois, ils n'avaient pas besoin d'avoir les yeux rivés sur les surtitres. Ils étaient complètement dans le spectacle.
Et vous êtes venu avec un extrait de cet enregistrement de 2008, l'ouverture, la balade de Sweeney Todd, avec notamment Philippe Cantor dans le rôle de Sweeney Todd, une production de l'Opéra de Poche.
De Sweeney Todd, voici l'histoire. Son blanc visage et son regard noir. Il rasait des hommes de vertu que personne ensuite ne revoyait plus. Il ne suivait jamais les modes, ce Sweeney Todd, le barbier des monts de Fleet Street. Sweeney Todd, le barbier démon de Fleet Street.
Convite au rasoir, Sweeney, au buffet du poil, répand le sang de tous les plaies noires.
Ça pétait la vie sous son toit,
un lavabo, une chaise en bois,
un peu de savon, un bout de cuir, un tablier, un son, un balai, un drap.
Tout était toujours propre en ordre chez Sweeney Todd.
Le bar des démons de Fleet Street.
Sweeney Todd était fort discret, silencieux, rapide et propre. Sous ses sourires et dans ses dires, Sweeney entendait d'étranges couplets. Sweeney méditait d'un édifié comme une machine, il pensait
sur le coup. Sweeney le subtil, Sweeney frissonne les races des filles. Sweeney Todd était fort discret, silencieux, rapide et propre.
My suit when I'm with her, timorous, shy, and mute.
La regrettée soprano Rebecca Luker, disparue il y a quelques semaines, et George Dvorsky avec le Sinfonietta Orchestra sous la direction de John McGlynn, All the Things You Are, extrait d'une comédie musicale de Jérôme Kern, Very Warm for May, qui pour la petite histoire avait été créée en 1939 et mise en scène par Vincente Minnelli. C'est vous, Alain Peyrou, directeur de l'Opéra National du Rhin, qui avez choisi ce titre. Qu'est-ce qu'il vous inspire?
J'avais envie de faire entendre du Jérôme Kern, qu'on connaît surtout pour Showboat, grande comédie musicale qui a, en 1927, qui révolutionnait le genre et qui a été une date très importante dans l'histoire de la comédie musicale. Parce que c'était tout d'un coup une comédie musicale sérieuse avec des thématiques douloureuses comme le racisme, etc. J'ai choisi cette chanson qui est devenue un standard de jazz d'ailleurs, qui est très connue aux États-Unis. C'est une magnifique chanson qui montre bien tout ce qui fait le prix, je trouve, de la musique de Jérôme Kern. Une imagination mélodique débordante, avec des mélodies longues, lyriques, avec des surprises, des modulations, des changements d'éclairage, comme ça, hallucinant. Alors, ce qui est amusant, c'est que quand j'ai rencontré Sondheim pour l'interviewer, il me parlait de Jérôme Kern indirectement, parce que Jérôme Kern a travaillé avec Oscar Hammerstein, qui est le librettiste d'ailleurs de Showboat, et Oscar Hammerstein a été le mentor de Sondheim. C'était un peu son père de substitution.
Stephen Sondheim, je crois.
Stephen Sondheim, oui. et donc, Hammerstein racontait à Sondheim que Jérôme Kern, on a l'impression quand on l'entend dans sa musique qu'elle coule naturellement, que c'est du Schubert, comme ça, que c'est facile. Mais il disait que c'était tout le contraire. Kern, en train de composer, il jouait une note après l'autre, il cherchait. Et Sondheim, je crois que je l'ai encore dans l'enregistrement de l'interview, chantonne, il dit alors, voilà, il faisait pam 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 non pam 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 non pam 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 pam, et que ça rendait fou Oscar Hammerstein, parce que on a l'impression d'une musique très facile, mais en fait elle était le fruit de longues recherches très douloureuses.
42e rue, Laurent Vallière, France Musique.
Avec Alain Peyrou, le directeur de l'Opéra National du Rhin à Strasbourg, qui programme l'émission. Mais Alain Peyrou, vous avez été durant 10 ans aussi conseiller artistique au Festival d'Aix-en-Provence. Alors c'est assez étanche, le monde de l'opéra et de la comédie musicale, mais il y a quand même certains compositeurs qui arrivent à se faufiler. Et moi je m'en rappelle, il y a 2 ans, vous avez réussi à programmer « Grandeur et décadence de Mahagoni » de Kurzweil, dans une mise en scène très audacieuse d'Ivo Van Hove, avec le Philharmonia Orchestra sous la direction musicale de Esa-Pekka Salonen. Quel souvenir vous avez de cette production?
C'est toujours passionnant de travailler avec des artistes de cette trempe, Salonen et Ivo Van Hove, qui travaillaient pour la première fois ensemble. Et puis c'était passionnant de construire une distribution avec eux. Alors c'est précisément pour cette production que on devait avoir la participation d'Audra McDonald dans le rôle de Jenny. Parce qu'il s'agit bien d'un opéra, hein. Il a été conçu comme tel par Brecht et Weill. Mais oui, il y a une étanchéité et en même temps, pas complètement. Surtout avec des artistes comme ceux-là, comme Weill et Brecht. Pour remplacer Audra McDonald, on a eu recours à une chanteuse d'opéra, mais qui a beaucoup d'abattage, qui est une bête de scène. C'était une approche quand même très opéra, malgré tout, avec l'orchestre rugissant du Philharmonia Orchestra. Et Ivo Van Hove, qui à l'époque préparait déjà West Side Story, qu'il devait monter à Broadway.
Celle qui a donc pris le rôle d'Audra McDonald, c'est Annette Dash, qui interprète ici ce Alabama Song, extrait de cette production de Grandeur et décadence de Mahagoni au Festival d'Aix-en-Provence.
Bye.
Annette Dash avec le Philharmonia Orchestra sous la direction de Esa-Pekka Salonen. On referme cette 42e rue, déjà, Alain Perroux, avec un choix plus inattendu. Vous êtes directeur de l'Opéra National du Rhin. Est-ce que Hamilton, la comédie musicale de Lin-Manuel Miranda qui raconte le parcours d'un des fondateurs des États-Unis en utilisant la musique contemporaine, le R&B, le rap, qui est votre dernier choix, est-ce que ça aurait sa place à l'Opéra du Rhin ?
Mais je crois que tout chef-d'œuvre de théâtre musical, quel qu'il soit, a sa place à l'Opéra National du Rhin.
D'accord.
Qui a déjà un répertoire souvent assez large, mm-hmm. et que j'espère bien maintenir aussi large, voire même élargir encore. Musique d'aujourd'hui, musique baroque, comédie musicale. Donc Hamilton, pourquoi pas ? Là encore, c'est un projet en soi très original et
une architecture.
C'est une œuvre d'art totale, quelque part. Une architecture, exactement. Où moi, ce que je trouvais pas tant, et dans l'extrait qu'on va entendre, c'est que on nous présente les pères fondateurs des États-Unis dans le cabinet du gouvernement, en train de débattre de sujets économiques et politiques. Tout ça sur de la musique justement rap, ça devient à la fois du entertainment, et en même temps ça raconte les États-Unis d'hier mais aussi ceux d'aujourd'hui, le melting pot, ça raconte la politique, qui est aussi un théâtre et dans lequel aussi il y a des personnages qui ont des affects, des vies privées, etc. Donc c'est une œuvre extrêmement riche et pour moi un chef-d'œuvre au même titre que les grands chefs-d'œuvre de l'opéra.
Alors là, en gros, les trois, c'est Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, George Washington, autour de la table, qui sont en train de décider si oui ou non, on va créer la Banque Centrale Américaine.
Ladies and gentlemen, you could have been anywhere in the world tonight, but you're here with us in New York City. Are you ready for a cabinet meeting, huh? The issue on the table. Secretary Hamilton's plan to assume state debt and establish a national bank. Secretary Jefferson, you have the floor, sir.
Life, liberty, and the pursuit of happiness. We fought for these ideals, we shouldn't settle for less. These are wise words, enterprising men quote them. Don't act surprised, you guys, 'cause I wrote them. Ow, but Hamilton forgets. His plan would have the government assume state debts. Now place your bets as to who that benefits. The very seat of government where Hamilton sits.
Not true.
Oh, if the shoe fits, wear it. If New York's in debt, why should Virginia bear it? Our debts are paid, I'm afraid. Don't tax the South, 'cause we got it made in the shade. In Virginia, we plant seeds in the ground. We create, you just wanna move our money around. This financial plan is an outrageous demand, and it's too many damn pages for any man to understand. Stand with me in the land of the free. Pray to God we never see Hamilton's candidacy. Look, when Britain taxed our tea, we got frisky. Imagine what gon' happen when you try to tax our whiskey.
Thank you, Secretary Jefferson. Secretary Hamilton, your response.
Thomas, that was a real nice declaration. Welcome to the present, we're running a real nation. Would you like to join us? Or stay mellow doing whatever the hell it is you do in Monticello. If we assume the debts the union gets, a new line of credit, a financial diuretic, how do you not get it? If we're aggressive and competitive, the union gets a boost. You'd rather give it a sedative? A civics lesson from a slaver. Hey, neighbor, your debts are paid because you don't pay for labor. We plant seeds in the South, we create, they keep ranting. We know who's really doing the planting. And another thing, Mr. Age of Enlightenment, don't lecture me about the war. You didn't fight in it. You think I'm frightened of you, man? We almost died in the trench. Well, you were off getting high with the French. Thomas Jefferson always hesitant with the president. Medicine, there isn't a plan he doesn't jettison.
Madison, you mad as a hatter, so take your medicine. Damn, you in worse shape than the national debt is in. Sitting there useless as two shits. Hey, turn around, bend over, I'll show you where my shoe fits.
Excuse me. Madison, Jefferson, take a walk. Hamilton, take a walk. We're gonna reconvene after a brief recess. Hamilton,
sir,
a word.
You don't have the votes.
You don't have the votes. You're gonna need congressional approval, and you don't have the votes.
Such a blunder, sometimes it makes me wonder why I even bring the thunder.
Why he even brings the thunder?
You wanna pull yourself together?
I'm sorry, these Virginians are birds of a feather.
Young man, I'm from Virginia, so watch your mouth.
So we let Congress get held hostage by the South?
You need the votes.
No, we need bold strokes, we need this plan.
No, you need to convince more folks.
Well, James Madison won't talk to me. That's
a non-starter.
Ah, winning was easy, young man. Governing's hard.
They're being intransigent.
You have to find a compromise.
But they don't have a plan. They just hate mine.
Convince them otherwise.
And what happens if I don't get congressional approval?
I imagine they'll call for your removal.
Sir.
Figure it out, Alexander. That's an order from your commander.
Cabinet Battle No. 1, extrait de Hamilton, la comédie musicale de Lin-Manuel Miranda. Le dernier choix d'Alain Perroux aujourd'hui, qui a programmé 42e rue, le directeur de l'Opéra National du Rhin. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut dire qu'au moins il y aura une comédie musicale la saison prochaine à l'Opéra du Rhin ?
Ça, on peut le dire, oui. Mais on ne dira pas quel titre, parce que nous n'avons pas encore annoncé la saison 21-22.
Eh bien déjà, c'est une super bonne nouvelle. On vous remercie, on vous réinvitera alors, pour une fois que vous aurez programmé cette comédie musicale. Merci beaucoup.
Très volontiers pour revenir, et merci à vous, Laurent.
Sur la page de 42e rue, on a mis quelques vidéos de titres que vous avez choisis, même de titres supplémentaires choisis par vos soins, qu'on n'a pas eu le temps de diffuser. Et puis, sur le site de l'ONR, on peut voir gratuitement la captation de quelques spectacles qui ont dû malheureusement être annulés. On recommande enfin, évidemment, votre ouvrage « Comédie musicale, mode d'emploi » paru aux éditions Avant-Scène Opéra. 42e rue, c'est à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast. On est sur toutes les plateformes de musique et puis bien sûr sur l'application Radio France. 42e rue, Laurent Vallière, Martine Moni, Marie Le Peintre, Céline Parfenoff. On vous souhaite un très bon dimanche. Dans un instant, vous retrouvez Marina Chiche.
Rideau. À réécouter sur francemusique.fr.